VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 5 avril 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Julius Maada Bio est le nouveau président de la Sierra Leone. Son rival Samora Camara conteste les résultats de l'élection.
En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi doit être jugé fin juin dans une affaire de recrutement de mercenaires.
Au Cameroun, 12 touristes italiens et suisses arrêtés brièvement lundi par un groupe armé dans la région anglophone du Sud-Ouest.
En Gambie, report au 25 avril du procès de deux généraux de l'ancien président Yahya Jammé, inculpé de désertion.
Ici à Washington, le président américain Donald Trump a ordonné hier l'envoi immédiat de la garde nationale à la frontière avec le Mexique.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
En Sierra Leone, le candidat du principal parti d'opposition, Julius Maada Bio, a été déclaré hier officiellement vainqueur du second tour de l'élection présidentielle du 31 mars. Mais son rival, Samora Camara, conteste les résultats. Jean-Roger Bion fait le point.
Monsieur Bio, un ancien militaire de 53 ans, l'a emporté avec 51,81% des voix contre 48,19% pour Monsieur Camara, le candidat du parti au pouvoir, a annoncé en milieu de soirée le président de la Commission électorale nationale, Mohamed Konté. Monsieur Bio retrouve ainsi le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé après un coup d'État. Des cris de joie ont immédiatement éclaté à Freetown, parcourus par des milliers de supporters du Parti du peuple de Sierra Leone dans l'opposition depuis 10 ans. Dans un message télévisé, Monsieur Camara a indiqué dans la soirée qu'il allait contester les résultats qui, selon lui, ne reflètent pas les nombreuses inquiétudes de son parti concernant des bourrages d'urnes massifs, des votes surnuméraires et d'autres irrégularités. 2 heures après l'annonce de sa victoire, Monsieur Bio, habillé d'une longue tunique blanche, a prêté serment dans une salle de conférence bondée et surexcitée d'un grand hôtel proche de l'océan où l'attendaient des centaines de proches représentants des corps de l'État et diplomates étrangers. Il succède au président Ernest Bai Koroma qu'il avait battu en 2012, mais ne pouvait plus se représenter après 2 mandats de 5 ans.
En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi doit être jugé fin juin dans une affaire de recrutement de mercenaires. Ses avocats dénoncent l'impossibilité de faire appel. Claire Morin-Gibourg.
L'avocat de Moïse Katumbi, maître Joseph Mukendi, a annoncé à la presse que le procès dans l'affaire des mercenaires est fixé pour le 26 ou le 27 juin devant la Cour suprême. Il déplore que les arrêts de la Cour suprême sont sans possibilité de recours. Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga, fait l'objet d'au moins 3 procédure en RDC. Le 19 mai 2016, il a été inculpé de recrutement de mercenaires et placé sous le coup d'un mandat d'arrêt pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Autorisé à quitter la RDC le lendemain pour aller se faire soigner en Afrique du Sud, il vit depuis en exil. Une dizaine de Congolais arrêtés dans le cadre de cette affaire sont toujours en détention et n'ont pas été jugés. En mai 2016, M. Katumbi avait été condamné à 3 ans de prison dans une affaire immobilière qui est en appel devant le tribunal de grande instance de Lubumbashi. Moïse Katumbi en conteste tout fondement. Mi-mars, la justice congolaise a promis de le poursuivre dans une autre affaire liée à sa supposée nationalité italienne.
Au Cameroun, 12 touristes italiens et suisses ont été arrêtés brièvement lundi par un groupe de personnes armées dans la région anglophone du Sud-Ouest, a annoncé hier leur agence de voyage italienne. Des détails avec Irénée Hermanoumbo.
L'agence African Adventure, dans un communiqué, affirme que les touristes vont bien et n'ont subi aucune violence. Le test précise que le 12 avril, sur un parcours ouvert à la circulation, les touristes ont été arrêtés par un groupe armé qui a effectué un contrôle. Ils ont ensuite obtenu l'autorisation de repartir après des négociations. C'est peu après qu'une patrouille des forces spéciales camerounaises est arrivée sur place, poursuit le communiqué, qui évoque un bref engagement sans donner plus de détails. Entre-temps, Yaoundé avait annoncé qu'une opération a permis la libération de 12 touristes européens. Issa Chiroma Bakari, ministre de la Communication, avait aussi évoqué la neutralisation des terroristes qui les avaient pris en otage à Mongondor, alors que ces Européens se rendaient à Twin Lakes, deux lacs situés dans le secteur de Kupe-Marengumba. Le groupe armé Ambazonia Defense Forces, l'un des groupes séparatistes anglophones, a démenti toute implication dans cette affaire.
Et en seconde partie de cette édition, nous reviendrons sur cette affaire avec le ministre Issa Chiroma Bakari, porte-parole du gouvernement camerounais.
Le nouveau président libérien George Weah, qui effectue sa première visite en Côte d'Ivoire, a indiqué hier qu'il souhaitait renforcer les relations avec son voisin, saluant au passage certains aspects de l'expérience ivoirienne. « Nous voulons collaborer, coopérer avec votre gouvernement. C'est pour ça que nous sommes là, pour renforcer cette relation », a souligné M. Weah devant la presse, aux côtés de son homologue ivoirien Alassane Ouattara.
En Gambie, report au 25 avril du procès de deux généraux de l'ancien président Yahya Jammeh, inculpés de désertion. Les prévenus, qui ont comparu hier devant une cour martiale, avaient suivi M. Jammeh en exil avant de rentrer dans leur pays en janvier. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les généraux Assoumana Tamba, ancien commandant de la garde présidentielle, et Oumpa Mendy, ex-responsable de la protection rapprochée de Yahya Jammeh, avaient été arrêtés le 21 janvier à leur retour de Guinée équatoriale. Ils sont poursuivis pour désertion de poste. Leurs avocats ont soutenu que leurs clients ne devaient pas être jugés par cette cour car ils ne sont plus considérés comme membres des forces armées. Le paiement de leur salaire a été suspendu dès leur départ et leurs équipements leur ont été retirés peu après leur retour en Gambie, a indiqué le capitaine Swahibou Jammeh, un de leurs conseillers. Par contre, le lieutenant-colonel Baoré Cham, représentant de l'État, a estimé qu'ils étaient toujours sous les drapeaux et avaient abandonné leur poste pour suivre Yahya Jammeh dans son exil. Leur procès doit reprendre à partir du 25 avril devant une cour martiale à Banjul. La sécurité du pays est toujours assurée par la force de la CEDEAO, sous commandement sénégalais, dont le mandat, prolongé à plusieurs reprises, court jusqu'en mai 2018.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le président Donald Trump a ordonné l'envoi immédiat de la garde nationale, corps de réserve de l'armée américaine, à la frontière avec le Mexique. L'objectif est de contenir l'immigration clandestine, alors que les organisateurs d'une caravane vers les États-Unis ont annoncé qu'ils renonçaient à l'encadrer. Abdurrahman Dia.
Christian Nielsen, secrétaire à la sécurité intérieure, a indiqué hier que le président des États-Unis a ordonné le déploiement de la garde nationale à la frontière sud-ouest pour aider les services des gardes frontières. Nous espérons que ce déploiement débute immédiatement, a-t-il ajouté. La menace est réelle, a assuré Mme Nielsen pour expliquer cette décision, mettant en exergue des niveaux inacceptables de trafic de drogue, de dangereux gangs et d'immigration illégale à la frontière sud. Depuis plusieurs jours, Donald Trump mettait la pression sur le Mexique et le Congrès américain pour qu'ils agissent pour empêcher l'arrivée de clandestins aux États-Unis. Ce regain d'intérêt a été déclenché par les images d'une caravane de migrants d'Amérique centrale déterminée à rejoindre les États-Unis. Ils se trouvent pour l'instant dans le sud du Mexique. Hier, un des responsables de l'ONG Peuples sans frontières a annoncé que son organisation a renoncé à encadrer la caravane de plus de 1000 migrants. « Notre travail va se terminer à Mexico », a lancé un responsable de l'ONG, précisant que ceux qui souhaitent continuer leur route vont devoir le faire à leurs propres frais.
Le président Trump a déclaré qu'il n'y a pas de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine après que Pékin a annoncé son intention de frapper de tarifs des produits américains estimés à 50 milliards de dollars et ce en réplique à des mesures similaires annoncées par les États-Unis. M. Trump a soutenu hier dans un tweet qu'il n'y a pas de guerre commerciale avec la Chine, cette guerre ayant été perdue depuis longtemps. Maintenant, a poursuivi le président américain, nous avons un déficit commercial de 500 milliards de dollars par an. Et avec le vol de la propriété intellectuelle, ce sont 300 milliards de dollars supplémentaires. Cela ne peut plus durer. Pour sa part, le secrétaire au commerce, Wilbur Ross, n'exclut pas que tout cela se termine par des négociations fructueuses entre les deux parties.
Les États-Unis font pression sur leurs alliés et partenaires au Moyen-Orient pour qu'ils intensifient leurs efforts afin de détruire le groupe terroriste État islamique, soulignant que l'implication des troupes américaines en Syrie va rapidement prendre fin. Cette déclaration de la Maison-Blanche a été faite mercredi, 24 heures après que le président Donald Trump a répété publiquement son souhait de rapatrier les quelques 2000 militaires actuellement en Syrie, bien que ses principaux responsables militaires aient indiqué que la tâche d'éradication de l'organisation djihadiste n'était pas totalement achevée.
Des policiers new-yorkais ont abattu mercredi à Brooklyn un homme noir qui pointait un tuyau qu'ils ont pris pour une arme, provoquant des tensions dans le quartier sur fond de controverses toujours vives sur les violences policières. L'incident a eu lieu à Crown Heights, un quartier majoritairement noir au cœur de Brooklyn. Un responsable de la police a affirmé lors d'un point de presse que ces hommes étaient intervenus après avoir reçu 3 appels différents signalant un homme avec une arme pointée sur les passants. Selon lui, des caméras de surveillance corroboraient cette description des faits. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
L'Afrique subsaharienne pourrait enregistrer chaque année une croissance de 2,6%. D'après la Société financière internationale, la région devrait au préalable combler son déficit d'infrastructures. Les meilleurs gains proviendraient de l'augmentation des capacités de production de l'électricité et de l'extension du réseau routier. Au cours des 25 dernières années, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et l'Ouganda accaparent 48% des 335 projets d'infrastructures réalisés dans le cadre des partenariats publics. Privé. Le Tchad a lancé hier la construction d'un premier dépôt pétrolier d'une capacité de 36 millions de litres pour environ 13 milliards de francs CFA, soit plus de 24 millions de dollars. Il permettra de stabiliser les prix du pétrole dans le pays, lutter contre la fraude au carburant à l'importation ou l'exportation et éviter les pénuries. Les agriculteurs américains ébranlés par les sanctions chinoises. Un agriculteur dans l'Iowa et président de l'Association américaine des producteurs de soja a affirmé que la décision chinoise aura un effet dévastateur sur tous les producteurs de soja aux États-Unis. La Chine est le plus important acheteur de soja et en a commandé pour 12 milliards de dollars en 2017, soit environ 30% de la production du pays. En représailles à des sanctions commerciales de Washington, Pékin veut imposer des droits de douane à hauteur de 25% sur ses achats de soja. La céréale est produite principalement dans le Texas, l'Oklahoma et le Kansas qui ont largement élu Donald Trump aux élections de 2016.
À présent, les sports avec Nicolas Pino. Nicolas, bonjour.
Bonjour, Lisa. Bonjour à tous.
Barcelone intraitable à domicile en quart de finale de la Ligue des Champions.
Le FC Barcelone qui a pris une grosse option pour la qualification en demi-finale hier soir grâce à sa victoire au Camp Nou face à l'AS Rome, 4-1. Suarez et Piqué buteurs des Catalans et 2 buts contre leur camp des Romains. Autre match de la soirée, un feu d'artifice à Liverpool, les Reds qui battent 3-0 Manchester City. Mohamed Salah avait ouvert le score dès la 12e minute de jeu, imité peu de temps après par son coéquipier Chamberlain, Sadio Mané, le Sénégalais, qui complète cette grosse domination. Les Reds, efficaces, ont ensuite su contenir la pression des hommes de Guardiola au bord de l'élimination.
Et les quarts de finale aller de l'Europa League ce soir.
L'Atlético Madrid à domicile favori face au Sporting Portugal. Autre grosse écurie européenne, Arsenal qui rêve de profiter de l'Europa League pour retrouver des couleurs. Le quart de finale contre le CSKA Moscou semble largement à sa portée. Dans les autres rencontres, l'Olympique de Marseille, privé de 3 cadres, aborde dans des conditions difficiles son déplacement à Leipzig. Et de son côté, la Lazio de Rome accueille les Autrichiens de Salzbourg.
Foot féminin sur le continent africain.
Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2018 qui aura lieu au Ghana à la fin de l'année. Ils ont commencé hier, 5 rencontres au programme. Les Kenyans se sont imposés à domicile face aux Ougandaises, 1-0. Victoire également pour le Congo contre la République centrafricaine, 2-0. Et pour le Sénégal contre l'Algérie, 2-1. Match nul spectaculaire entre les Zambiennes et les Tanzaniennes, 3-3. Enfin au Ghana, la Libye a été écrasée par l'Éthiopie, 8-0. Rappelons que 7 équipes se qualifieront pour cette CAN 2018, ainsi que le Ghana, pays organisateur. Allez Drissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Philadelphie et Détroit, 115-108. Orlando et Dallas, 105-100. Miami et Atlanta, 115-86. Toronto et Boston, 96-78. la Nouvelle-Orléans et Memphis 123 à 95.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous vous le disions en première partie de cette édition, 12 touristes, 7 Suisses et 5 Italiens ont été brièvement arrêtés lundi au Cameroun par un groupe de personnes armées dans la région anglophone du Sud-Ouest, a annoncé hier leur agence de voyage italienne. Pour leur part, les autorités disent que les 12 ont été libérés par la brigade d'intervention rapide du pays. Ce n'est pas la première fois que l'on parle de kidnapping d'étrangers ou de conseillers municipaux dans les régions anglophones du Cameroun depuis le début de 2018 et la dégradation de la situation sécuritaire dans ces zones. Les séparatistes des Ambazonia Defense Forces ayant démenti être derrière ces enlèvements, qui est donc responsable de ces raids? John Linden a posé la question au ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement, Issa Kiroma Bakary.
Vous vous attendez à ce qu'ils vous disent la vérité, vous vous attendez à ce qu'ils vous disent les faits. La preuve, c'est que s'agissant de 6 Européens pris en otage, au moment où ils s'apprêtaient à aller sortir du Cameroun, ils étaient proches de la frontière avec le Nigeria quand ils ont été pris en chasse par nos forces de défense et de sécurité, avec le soutien de nos populations et les groupes de vigilantes. À ce moment-là, qu'on les a pris en chasse, alors on a neutralisé ce qui était accessible et puis on a récupéré les touristes.
Et quels ont été justement les conditions ou les circonstances de libération de ces otages?
Conditions et circonstances ne sauraient être décrites à la voix de l'Amérique dès lors que certains aspects de cette affaire relèvent simplement du secret défense. Je voudrais simplement que vous sachiez que la société civile, les groupes de vigilance, les chefs traditionnels, tout le monde, chacun a apporté son obol dans la réalisation de cette chose. C'est cette synergie qui nous a permis naturellement d'arriver à ce résultat heureux.
Le sous-préfet de Batibo et le délégué aux affaires sociales du Sud-Ouest sont toujours portés disparus. Avez-vous des informations sur leur absence?
Je n'ai aucune information à vous donner dans ce sens-là.
Est-ce que, au niveau de la région du Sud-Ouest anglophone, quelles sont les conditions de sécurité en ce moment, aussi bien pour les Camerounais que pour ceux qui souhaiteraient visiter cette région comme ces touristes libérés?
Les autorités administratives, le gouverneur en tête, connaissant donc la topographie des lieux, la géographie des lieux et les habitudes des terroristes, ils ont élaboré une stratégie qui se révèle aujourd'hui d'une efficacité imparable. Je ne vous le dirai pas, mais les citoyens vaquent à leurs occupations. La circulation est normale jusqu'au jour où intervient l'heure de couvre-feu avec une réglementation stricte parce qu'il s'est servi d'une certaine logistique pour s'attaquer aussi bien aux autorités qu'aux citoyens sans défense et sans armes. Alors ça marche très bien. Dans la journée, tout le monde vaque à ses occupations avec une vigilance. Il y a des forces de défense et de sécurité qui sont dans une discrétion appréciable mais toujours prêts à bondir à la prochaine occasion pour mettre interne à une agression, quelle que soit sa nature. S'agissant donc des touristes, dès lors que nous prenons connaissance de leur existence, il y a toujours une protection très discrète, pas ostentatoire, qui leur permet d'aller où ils veulent aller, mais sous protection. Alors ceux qui ont été enlevés malheureusement sont entrés au Cameroun à l'insu des autorités, bien que disposant de visas d'entrée, mais ils sont entrés. Aucune mesure de sécurité discrète n'avait été prise, mais ma foi, ils sont tombés dans le guet-apens tendu par les terroristes.
Issa Kiroma Bakary, ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République centrafricaine, les parents des personnes enlevées dimanche dernier par la LRA, non loin d'Obo, dans le sud-est, demandent des explications aux autorités de Bangui. Lundi, le gouvernement et la mission des Nations Unies, la MINUSCA, avaient officiellement annoncé la libération de 15 otages. Information démentie par des sources locales. Notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Dans la matinée du dimanche 1er avril, des éléments de l'armée de résistance du Seigneur LRA prennent d'assaut le village Koubou, situé à 17 km de la ville d'Obo. Après des scènes de pillage, ils parviennent à capturer une vingtaine de villageois. Informés, les militaires centrafricains et les casques bleus basés à Obo font une descente sur le terrain. Le lendemain, le gouvernement et la MINUSCA annoncent officiellement lors d'une conférence de presse à Bangui la libération de 15 otages. Maxime Kazagui, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.
À partir de cette attaque et de ces enlèvements, les forces centrafricaines, les FACA, ont pris attache avec les forces de la MINUSCA et ont décidé ensemble d'organiser une patrouille conjointe, si ce n'est une poursuite. Et suite à cela, à la rencontre entre d'une part les FACA et la MINUSCA, il y a eu un certain nombre d'échanges de coups de feu, initiés d'ailleurs par ce groupe de la LRA, suite à quoi nos forces conjointes ont riposté et ont pu, ce jour-là, libérer 15 otages.
La réplique n'a pas tardé. Les proches des otages apportent un démenti formel. À Obo et dans le village où le rap a eu lieu, c'est la consternation. Des sources locales contactées par VOA Afrique rejettent en bloc l'annonce des autorités à Bangui. Ce mercredi, la MINUSCA a maintenu sa position. Selon Hervé Verroussel, son directeur de communication, 15 otages ont bel et bien été libérés. Cependant, dans le langage, le nom du village a changé.
Les 15 otages dont nous parlons, et que les choses soient bien claires, sont 15 otages qui avaient été pris en otage lors de l'attaque de Bozongi, qui est un village à 12 km à l'est d'Obo. Nous avons montré aujourd'hui à la conférence de presse de la MINUSCA les photos de ces otages dans un camion avec des FACA et la MINUSCA. Donc ces otages ont déjà, le jour même de leur libération, rejoint leur village, qui est le village de Bozongi.
Des propos choquants pour Ernest Mizidio, député de Obo, qui en appelle à des actions concrètes pour la libération des otages, toujours entre les mains de leurs ravisseurs.
Nous ne connaissons pas aujourd'hui véritablement le sort des otages qui ont été pris par les éléments de la LRA il y a quelques jours, c'était le dimanche précisément, le dimanche premier. Ces otages-là sont toujours entre les mains des éléments de la LRA, contrairement aux informations qui ont circulé selon lesquelles ces otages auraient été libérés par les forces armées centrafricaines et la MINUSCA. Ces otages-là sont toujours entre les mains des éléments de la LRA et on n'a aucune information là-dessus. Aucune action n'a été menée jusqu'aujourd'hui.
Depuis l'annonce controversée de la libération de 15 otages, Bangui observe un silence total sur cette affaire. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
En République démocratique du Congo, la Corée du Sud a mis en garde contre l'utilisation de la machine à voter fabriquée à Séoul. Mais la Commission électorale nationale indépendante rassure, disant qu'elle traite avec une entreprise privée et non avec le gouvernement sud-coréen. Eddie Isango a interviewé à ce sujet le directeur exécutif de l'Institut Alternative et Initiative Citoyenne pour la Gouvernance Démocratique, Sylvain Lumu.
Il n'y a pas eu appel d'offres, il n'y a pas eu concurrence entre les fournisseurs. Et du coup, on voit la CENI se livrer à la publicité d'une machine. On ne comprend pas si le marché s'est déroulé de gré à gré. Ça, c'est un problème au point de vue de la loi congolaise relative au marché public. Ça, c'était sur le plan légal. Sur les plans techniques, la machine à voter est bel et bien une machine qui va nous faire utiliser le vote électronique dans notre pays. Il faudrait absolument qu'elle rassure les différents compétiteurs par rapport à ces spécifications, de telle sorte que tout doute raisonnable sur la manipulation des résultats soit levé. Aujourd'hui, que l'ambassadeur de la Corée relaye ce message, alors qu'il connaît suffisamment bien les fournisseurs et que, entre-temps, l'ASBEL qui accompagnait la CENI dans l'utilisation de cet outil a abandonné pour des raisons évidentes que jusqu'ici nous ignorons, il y a un vrai problème. Il ne peut pas être utilisé un outil dans les questions électorales qui sont éminemment politiques, en dehors de tout consensus. Et les partis politiques majeurs, en l'occurrence le MLC, l'UDPS, l'UNC et bien d'autres, ont décliné l'utilisation de la machine à voter au cours des futures élections.
Mais la CENI répond aux autorités coréennes que la CENI n'est pas en affaire avec la Corée, mais plutôt avec la société Miro Systems.
Exactement, c'est une incongruité parce que dès le départ, Il a été présenté que cette machine est facilitée par le gouvernement coréen. Mais il y a eu une évolution d'information qui fait que finalement, il apparaît au jour après jour. Il s'agit d'un marché qui absolument fait intervenir des individus. Et donc, un marché obscur où on ne sait contrôler rien et que dans le cas où il n'y a aucune transparence, il y a des questionnements à avoir et le risque de manipulation du marché à craindre.
Parmi les éléments qu'évoque l'ambassade sud-coréenne, c'est donner un prétexte au gouvernement pour retarder les élections. Est-ce que vous ne pensez pas que faire marche arrière aujourd'hui serait aussi donner un prétexte pour que les élections soient reportées?
Exactement, parce que la CENI, elle, parmi les avantages qu'elle présente pour la machine à voter, c'est de dire qu'il y a absolument la nécessité d'utiliser la machine pour respecter le calendrier. Et si les autorités coréennes présentent les choses de cette manière, c'est qu'elles sont suffisamment informées de ce que le fournisseur à leur niveau est probablement peu limité en termes de production à haute portée, pouvant faciliter à produire dans le temps record qui devrait être le nombre de machines requis.
C'était Sylvain Loumou de l'Institut Alternative et Initiative Citoyenne pour la Gouvernance Démocratique à Kinshasa.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés regrette la décision d'Israël d'annuler l'accord pour installer des milliers de réfugiés érythréens et soudanais dans des pays occidentaux. Cependant, le HCR se dit confiant quant à une éventuelle solution. Le point avec Marie Benson.
Près de 39 000 migrants africains, pour la plupart des Érythréens et Soudanais, vivent illégalement en Israël, souvent dans les quartiers pauvres de Tel Aviv. Lundi, Israël et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ont annoncé un accord pour envoyer ces migrants dans des pays occidentaux, notamment en Italie ou en Allemagne, pendant que d'autres resteront sur place avec un visa temporaire de travail. Rome et Berlin avaient aussitôt réagi, disant qu'ils n'ont pas été consultés. Dès le lendemain, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé l'annulation de l'accord. Cette annonce a engendré une vive protestation de la droite israélienne qui ne veut pas de la présence d'Africains illégaux en Israël. Auparavant, le gouvernement israélien avait offert le choix à ces migrants de les envoyer dans des pays africains avec un pécule de 3 500 $ ou bien d'aller en prison. Les ONG ont saisi la Cour suprême israélienne qui a gelé l'application de cette décision. William Spindler, porte-parole du HCR.
Nous sommes revenus à la case départ. L'accord controversé d'envoyer ces migrants en Afrique subsaharienne a été gelé par la Cour suprême et les pays qui devaient les accueillir ont dit n'avoir jamais signé d'accord dans ce sens.
Par ailleurs, M. Spindler affirme que le HCR continuera de travailler avec le gouvernement israélien pour trouver une solution, car ces migrants africains ont vraiment besoin de protection après avoir fui la guerre ou la persécution dans leur pays. Selon lui, la décision d'envoyer ces migrants en Afrique, éventuellement au Rwanda ou en Ouganda, a été largement critiquée.
Quand ils arrivent là-bas, ils ne peuvent pas s'intégrer. Beaucoup ne se sentent pas en sécurité et continuent donc leur périple dangereux au risque de leur vie après avoir déjà vécu beaucoup de souffrances. Et une fois encore, ils devront partir.
Selon M. Spindler, la situation actuelle de ces migrants est intenable et il faut que le HCR et Israël trouvent une solution.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la vie et l'héritage de Winnie Mandela, décédée lundi à l'âge de 81 ans. Comment a-t-elle contribué à la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud? Quel rôle a-t-elle joué en tant que militante de l'ANC durant les 27 années de prison de son époux Nelson Mandela, l'icône de la nation arc-en-ciel? Image de celle que le peuple sud-africain appelait affectueusement Winnie, a-t-elle été écornée par des dérapages politiques et des affaires de corruption? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seboudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.